Négociation en entreprise, pourquoi le décideur doit rester en retrait des débats? Dans beaucoup d'organisations, la négociation réunit autour de la table celles et ceux qui ont un intérêt direct, et la personne qui détient le pouvoir de décision finale. Ce schéma semble logique. En réalité, il freine souvent la qualité des échanges et limite la portée des accords obtenus. Séparer clairement le temps du débat et le temps de la décision transforme en profondeur la dynamique de négociation. Cette approche, mise en avant par plusieurs travaux relayés notamment par Harvard Business Review, montre qu'un décideur gagne à intervenir après les discussions, et non pendant. Quand le décideur participe au débat, les échanges se contractent. La présence du décideur modifie le comportement de tous les participants, souvent de manière invisible. Autocensure et prudence excessive. Face à la personne qui tranchera, les interlocuteurs filtrent leurs propos. Les demandes ambitieuses deviennent plus modestes. Les désaccords sont formulés avec retenue. Les sujets sensibles sont contournés. Résultat, la négociation semble calme et rapide, mais les véritables enjeux ne sont pas traités. Alignement stratégique ou conformisme. Même sans intervenir, le décideur influence la discussion. Chacun tente d'anticiper ses préférences. Les propositions s'orientent vers ce qui paraît acceptable plutôt que vers ce qui serait réellement pertinent. La négociation ne cherche plus la meilleure solution possible. Elle cherche la solution qui passera. Moins d'idées nouvelles. Les options originales comportent toujours une part d'incertitude. En présence du décideur, peu de personnes prennent le risque de proposer des pistes perçues comme audacieuses. Le groupe reste dans un cadre familier, avec des compromis classiques qui satisfont à moitié tout le monde. Dissocier négociation et décision, une organisation plus efficace. Une pratique bien plus productive consiste à distinguer deux rôles. Les négociateurs débattent, le décideur arbitre ensuite. Des négociateurs pleinement engagés, les personnes en charge des discussions peuvent alors défendre clairement les intérêts de leur partie. Poser les vrais points de tension. Explorer différentes options sans pression hiérarchique directe. Les échanges deviennent plus francs, plus techniques et plus complets. Un décideur en position d'arbitre. Une fois les scénarios posés, les points d'accord clarifiés et les désaccords identifiés, le décideur intervient avec une vision d'ensemble. Son rôle change. Il ne débat plus. Il choisit entre des options construites. Il tranche en tenant compte de la stratégie globale. La décision repose alors sur un matériau riche, et non sur des impressions de réunion. Les bénéfices concrets pour l'organisation. Séparer ces deux temps apporte des effets très nets. Des discussions plus authentiques. Les acteurs osent exprimer leurs besoins réels et leurs contraintes. Les zones de tension apparaissent plus tôt, ce qui évite les blocages tardifs. Des accords plus solides. Les solutions ont été testées, comparées, ajustées pendant la phase de négociation. Elles tiennent mieux dans la durée, car les parties ont réellement contribué à leur construction. Un décideur mieux positionné. Le décideur conserve toute sa légitimité. Il n'est plus perçu comme une partie prenante du débat, mais comme l'autorité qui tranche à partir d'éléments structurés et argumentés. Mettre en place cette approche dans votre entreprise. Concrètement, cela suppose de désigner des représentants clairs pour la négociation, de définir en amont le périmètre de discussion autorisé, d'indiquer que la décision finale interviendra après la phase d'échange. Ce cadre rassure les équipes. Il rend aussi les discussions plus efficaces, car chacun connaît son rôle et ses marges de manœuvre. Un levier stratégique souvent sous-estimé. La performance d'une négociation ne repose pas uniquement sur les talents individuels. Elle dépend de l'architecture du processus.